تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire, musical et désormais culturel tout court et plus généralement. Rock and Page c'est désormais hebdomadaire et c'est toujours ma façon de partager avec vous et en musique mes coups de cœur littéraires, mais c'est aussi l'occasion désormais de retrouver les chroniqueurs qui m'entourent une fois par mois. Vous avez rendez-vous avec Catherine Rochette qui, elle, vous conduit au cinéma. Une fois par mois, c'est avec Mademoiselle Amo que vous vous laisserez transporter par sa carte postale sonore fabriquée autour d'un mot. Et en fait, ce sera le cas aujourd'hui. Une fois par mois, c'est avec le célèbre Bibio Manu que vous avez rendez-vous pour sa chronique à la frontière des genres, pour une immersion totale en territoire hostile via les littératures polar et science-fiction. Au sommaire de ce numéro, vous trouverez donc ma rencontre avec Sébastien Bergne, l'organisateur du festival qui aura lieu les 26 et 27 décembre prochains à Béziers et qui s'appelle le festival Fabrique, proposé par le collectif Fabrique. Histoire qu'au-delà de la magie de Noël, vous ayez un chouette truc à faire et à découvrir dans le coin. Et puis ce sera, comme je viens de vous le dire, votre rendez-vous avec Bibio Manu, qui, lui, avec sa chronique à la frontière des genres, nous causera de Dominique Douay et de deux de ses ouvrages, L'impasse temps et Car les temps changent, réédité au Mouton électrique, et je crois même pouvoir dire, mesdames et messieurs, interview à suivre. Et pour nous mettre tout de suite dans le bain du festival Fabrique, juste avant d'accueillir Sébastien Bergne, son directeur, le directeur de ce festival, qui se tiendra dans divers lieux de Béziers les 26 et 27 décembre prochains, laissez-moi vous balancer tout doux juste ça. Thank you. C'était Heart of Wolf, que j'ai déjà bien évidemment accueilli dans Rock and Page, puisqu'ils sont du coin, mais surtout, vous venez de les entendre car ils sont au programme, beau programme, de ce festival dont on cause tout de suite sans plus tarder. Sébastien Bergne, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Vous êtes le directeur du festival Fabrique, qui se tiendra les 26 et 27 décembre prochains à Béziers. Alors racontez-nous un peu comment est né ce collectif du même nom et puis le festival.
Et bonjour tout d'abord. Donc du coup, le collectif Fabrique est né en 2010, donc sous l'impulsion du groupe C. Jolly Roger, qui avait voulu rassembler en fait tous les groupes de jeunes de musique pour créer en fait une scène pour que ceux-ci puissent se produire. Mmh. Et donc ça c'est vraiment la genèse du projet. Et au fur et à mesure, chaque année le festival donc c'est de plus en plus professionnalisé. Jusqu'à aujourd'hui, nous passons donc à 2 jours au lieu de 1. Mmh. Et avec des groupes qui sont avec une autorité nationale.
C'est ça. Alors sur votre programme, on peut lire, en plus de ces groupes, alors il y a O Tiger Mountain, il y a Johnny Hawaii, il y a Heart of Wolf. On peut lire en sous-titre aussi, concert, performance, lecture. À quoi il ressemble ce programme ?
Alors du coup, en fait, voilà, c'est toujours été aussi le but du festival, en fait, c'est de promouvoir d'autres arts autour des musiques actuelles, donc que ce soit par le théâtre, autour de performances, de happening, ou de lecture, ou des expositions, ou encore des projections de courts-métrages. C'était ça, en fait, l'idée, c'était de mélanger tous les arts pour donner aux gens envie de connaître autre chose par la musique.
Alors vous avez des supports de grande renommée pour une seconde édition, c'est ça, c'est la seconde édition ?
Non, c'est la cinquième.
La cinquième, c'est assez exceptionnel quand même. On trouve les In Rock, Tsugi, et puis aussi désormais Béziers Ouest, sortie Ouest à Béziers. Parlez-nous de la façon dont vous avez réussi à réunir ces partenaires autour de vous.
Pour ce qui est des partenaires médias, je pense que c'est par rapport à la programmation qui a été faite au niveau de la musique. Mm-hmm. Donc leur soutien, je pense, est basé sur ça. Donc ce qui donne une certaine crédibilité à l'événement. Ensuite aussi au niveau de sortie ouest, c'est un accompagnement au niveau de la professionnalisation justement de notre structure, qui a pour but justement de développer un festival et une scène de musique actuelle sur le Biterrois. Donc du coup, c'est pour nous c'est très important d'avoir ce soutien-là qui, eux, nous mettent à disposition des matériels et humains. Et donc c'est grâce à ça aussi que nous pouvons aujourd'hui faire ce festival sur 2 jours.
Bon, en beaucoup moins sympathique, désormais, lorsqu'on pense à Béziers, on pense à la couleur politique de la mairie. Alors moi, je déclare que ce festival est un acte de résistance plus que jamais. Est-ce que ça a été plus compliqué à monter cette année, réellement ?
Non, pas du tout.
Ok.
Non. Il n'y a eu aucun problème par rapport à ça. Nous n'avons pas de contact avec la mairie, certes, mais il n'y a pas eu de problème par rapport à ça.
Alors peut-être c'est le moment pour vous de rappeler où est-ce que les gens peuvent se procurer des places pour votre festival.
Alors il y a 3 points de vente, donc un au Cultura Béziers, l'autre facile pour tous les autres gens qui ne sont pas biterrois, c'est sur internet par notre site internet fabrique-festival.fr, donc sur Digétique.
Okay. Et voilà. Ok. Alors, j'imagine que, il y a aussi des artistes qui nous écoutent et pour intégrer la programmation en fait d'une année sur l'autre. Alors évidemment, là, vous êtes dans les derniers jours du montage du festival, vous attendez les gens maintenant. L'heure n'est pas à ça, mais ensuite la programmation d'une année sur l'autre. Comment un artiste qui serait intéressé peut vous contacter ?
Tout simplement par mail qui est disponible sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Ensuite, nous faisons la programmation en fonction de, à partir de commençant vers mai-juin. Mmh. Et ensuite, c'est en fonction de ce que nous voulons donner comme direction au festival l'année dans laquelle nous sommes. Et après, nous donnons quand même une grande part à justement à tout ce qui est local, donc avec plus de 50% de local. Oui. Donc ça, c'est, on y est très attaché aussi. Donc voilà, après, il n'y a pas forcément de... comment dire... de façon où nous faisons la programmation et nous ne voyons pas ça à l'avance.
Ok. Voilà. Et vous noteriez un mot aussi sur ce programme de réalisation que vous avez mis en place avec une école.
Oui. Alors au niveau de une école avec qui est à Montpellier, donc AXA Multimédia. Donc cette idée est née parce que nous connaissons un petit peu beaucoup de gens qui travaillent à Fabrique qui sont passés par cette école aussi. Mmh. Et l'idée c'était de se rapprocher justement de cette école-là pour faire un projet justement et donc inviter les écoles à participer au festival.
Très bien. Sébastien Bergne, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. Si vous deviez choisir un seul titre de musique pour évoquer le Festival Fabrique Mouture 2014, lequel choisiriez-vous ?
Alors, pour illustrer bien cette année de festival, je choisirais Forever Pavo avec Miguel Salam.
Parfait. Merci beaucoup. Bonne édition. C'était Forever Pavo, choisi par Bastien Bergne, directeur du Festival Fabrique, qui aura lieu les 26 et 27 décembre prochains à Béziers. Au programme et sur les deux jours, vous aurez des concerts avec quand même, parlons-en, John in Hawaii, O Tiger Mountain, Sid Jolly Roger ou encore Heart of Wolf et bien d'autres artistes du coin, mais aussi des lectures, des projections et des performances. Ça va bien de dire que les territoires qui composent la France sont malades, sont gangrénés par qui l'on sait et que ce n'est que le début, mais non d'une pipe en bois quand des gens se réunissent en collectif et qu'ils se battent pour que sur ces mêmes lieux on puisse assister à ce genre d'excellente programmation. Alors il en va de nos responsabilités d'aller nous régaler et de partager cette info-là capitale, qu'on se le dise. Avant de laisser la parole à Mister Bibliomanu pour sa chronique à la frontière des genres, laissez-moi vous balancer cette pépite là qui est une chouette découverte pour moi. Ça, c'était le poulpe, soit encore LPLPO, mes enfants, une affaire à suivre, je vous le dis. Allez-vous, c'est maintenant à la frontière des genres, votre rendez-vous avec Bibliomanu et les littératures polar et science-fiction.
Bonjour et bienvenue à la frontière des genres, un territoire où s'enchevêtrent, se confondent les codes de la littérature, qu'elle soit générale, qu'elle relève du polar, de la science-fiction, du fantastique, ou que sais-je encore. Il n'y a pas si longtemps, dans l'espace radiophonique du Drugstore Circus, j'avais dit tout le bien que je pensais de L'Impasse-Temps et de Car les temps changent de Dominique Doué, deux histoires initialement parues dans les années 70 et 80 et judicieusement rééditées par les Moutons Électriques cette année dans leur collection Helios. L'Impasse-Temps met en scène un dessinateur de bande dessinée faisant l'acquisition du pouvoir de bloquer le temps, d'être le seul humain animé quand tous les autres restent figés. Tandis que Car les temps changent décrit une France soumise à la loterie des personnalités. Chaque année, on remet les compteurs à zéro. La population change de nom, de statut social, de carrière, faisant ainsi table rase du passé. Deux histoires sidérantes jouant avec le principe même de réalité pour mieux évoquer notre monde, notre époque. Et comme j'ai eu la chance d'assister aux Utopiales de Nantes, le festival international de science-fiction, et que Dominique Douet y était, je n'ai pu m'empêcher de lui poser quelques questions.
Dominique Douet, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce À la frontière des genres, dédié spécialement aujourd'hui à la science-fiction. Alors nous sommes en direct des Utopiales à Nantes, nous avons fait le déplacement pour venir à votre rencontre et d'autres auteurs aussi. La plupart de vos écrits sont parus dans les années 70 et 80, et puis après, plus rien apparemment. Comment s'est opéré votre retour? Comment s'est faite la rencontre avec les Moutons électriques qui ont édité, qui ont réédité à ce jour les fameux Impasse-temps et Car les temps changent?
Oui, alors, pour classer les choses chronologiquement, oui, j'ai arrêté d'écrire mon dernier roman, première période, est paru en 90. Et puis j'ai arrêté d'écrire essentiellement parce que avec la science-fiction, pour moi, c'était un peu comme une histoire d'amour. Hein. Donc il y a eu une période de désamour. On n'a plus le désir d'écrire.
Oui.
Et c'est ce qui s'est passé. Et puis il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées dans les années 2000. Principalement, je pense qu'il y a été l'élément déclencheur, ça a été la mort de Patrice Duvic, je ne sais pas si vous connaissez,
oui,
qui est un auteur, mais qui était aussi éditeur, et qui avait, c'est un très vieux copain, il n'avait jamais admis que je puisse m'arrêter d'écrire, et donc son projet, c'était toujours de me remettre à l'écriture. Et il avait fondé, avec André-François Ruault, Les Moutons électriques. Patrice meurt, et avant de mourir, il me répète une dernière fois, il faut que tu te remettes à l'écriture. Et moi, je ne pouvais pas dire autre chose à ce moment-là, je lui ai dit, bah oui, je vais m'y remettre. Donc, moralement, quand même, je me suis senti obligé. Bon, c'est rien peut-être, mais c'est quand même un déclic pour moi qui a marqué. J'ai écrit une nouvelle pour la revue Fiction, donc, qui était publiée à l'époque par les Moutons électriques. Hein, et parce que maintenant, cette revue est publiée par les Indés de l'Imaginaire,
oui, hein,
dont font
oui.
partie les Moutons électriques.
Les Moutons électriques avec les éditions Mnemos
et ActuSF. Voilà. Donc, j'ai écrit cette nouvelle, et dans la foulée, c'est vrai, je me suis dit, tiens, finalement, se remettre à l'écriture n'est pas si difficile que ça. C'est un peu douloureux, mais c'est pas...
Il y avait un blocage
Surtout, j'avais découvert d'autres choses qui me paraissaient plus intéressantes. Plus intéressantes, n'exagérons pas, mais avec lesquelles j'avais une prise beaucoup plus directe avec la réalité. Mm-hmm. En deux mots, hein, la fin des années 80, début des années 90, c'est marqué par la chute du communisme des pays de l'Est. Il y avait un champ qui s'ouvrait à l'apprentissage de la démocratie. Or, mon métier, professionnellement, c'était les finances publiques. Donc je me suis dit que les finances publiques, c'était un moyen pour asseoir la démocratie. La lecture d'un budget, par exemple, la transparence des comptes publics, c'est important pour l'exercice de la démocratie. Donc j'ai monté des formations pour l'Union européenne, des formations à destination des élus ou des fonctionnaires territoriaux, et je me suis totalement investi là-dedans. Progressivement, là aussi j'ai perdu de l'intérêt pour ça, et ce qui explique aussi que je me sois remis à l'écriture.
Vous avez remanié les textes à l'occasion des rééditions?
Alors, c'est complètement différent pour L'Impasse-temps et Car les temps changent. L'Impasse-temps, j'ai pratiquement rien remanié, parce que l'histoire me paraît beaucoup plus intéressante, placée dans une sorte de monde intemporel. C'est pas un monde moderne, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas Internet. L'histoire de Car les temps changent est complètement différente de celle de L'Impasse-temps. Mm-hmm. Car les temps changent, à l'origine, c'était une nouvelle qui était parue dans... 5 solutions pour en finir, un recueil publié chez De Noël. Et après la publication de ce recueil, j'éprouvais une certaine frustration Parce que j'étais pas allé jusqu'au bout de ce que je voulais raconter, en fait.
Il fallait que ce soit plus qu'une nouvelle.
Voilà. Donc, ce que m'offrait François Ruault, c'était la possibilité soit de rééditer, soit de réécrire. Et j'ai choisi de réécrire, tout en restant fidèle au récit d'origine, mais en le nourrissant, puisqu'en fait, le roman qui est sorti, qui est tout de même un roman court, mais il fait plus du double du volume de la nouvelle d'origine. Donc effectivement, c'est le monde que je décris dans ce roman, c'est un monde qui est cohérent.
Sans doute parce que vous jouez souvent dans vos récits, on le voit à travers, ne serait-ce qu'à travers les titres déjà, et à travers L'impasse-temps et Carlet en change, que je n'ai lu que ces deux ouvrages pour le moment, mais je compte bien me rattraper. Vous jouez souvent du rapport à la réalité, de son altération, voire de sa décomposition, et on a tendance à vous rapprocher en cela de Philippe K. Dick. Est-ce que c'est une influence dont vous vous revendiquez?
Il y a deux choses. D'une part, effectivement, pour moi, la lecture de Philippe K. Dick, du Philippe K. Dick, de Ubik, ça a été vraiment un choc important. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cerné à ce moment-là un certain nombre de questions que je me posais, mais de façon très floue, enfin, j'arrivais pas à démêler les choses. Et en fait, c'est vrai que la lecture de Dick m'a aidé à exprimer cette problématique de la réalité. Donc, qu'est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ce qu'on a sous les yeux? Est-ce que c'est la réalité que nous transmettent les médias? Et les deux coïncident pas obligatoirement. C'est vrai qu'il y a une traduction, au moins une traduction, sinon une manipulation par les médias, qui fait qu'on ne reconnaît pas obligatoirement la réalité.
On a pour habitude dans Rock'n'Page, à la frontière des genres, de demander à l'auteur qu'on interviewe un conseil de lecture pour nos auditrices ou nos auditeurs, un ouvrage qui n'appartient pas à votre bibliographie.
Je viens de relire un livre de Thérèse Delpech, philosophe, sociologue et spécialisée dans les relations internationales. Qui était, parce qu'elle est morte il y a maintenant 5 ou 6 ans. Et l'un de ses derniers livres, qui avait obtenu le prix Femina dans les années 2000, s'appelle « L'ensauvagement ». Et je le relis avec une certaine stupeur, parce que ce qu'elle décrit, c'est pas joli joli, c'est le monde tel qu'elle voit, et elle décrypte, elle, en tant que sociologue, en tant que philosophe, des évolutions que moi je sens intuitivement, mais elle les décrypte d'après son analyse de faits historiques ou de faits actuels. Et c'est hallucinant. Pour moi, c'est hallucinant parce que ça correspond justement à ce que je crains, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais je me dis que si ce livre qui est paru maintenant il y a pas loin d'une dizaine d'années, il doit y avoir 6 ou 7 ans, avait été plus lu, peut-être que
bon. Très bien. Je vous remercie, Dominique Dioué. Donc, on va suivre vos prochaines publications avec impatience déjà. Et puis, on attend la suite.
Merci à vous.
Voilà, Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on vient de recevoir dans cette émission Bastien Bergne, le président du Festival Fabrique, qui se tiendra les 26 et 27 décembre prochains à Béziers. Concerts, lectures et performances au programme. Et pour ne citer que quelques noms, John Inaway, O Tiger Mountain, Sid Jolly Roger ou encore Heart of Wolf. Puis Manu, lui, avec À la frontière des genres, a reçu pour vous Dominique Doué pour ses deux ouvrages réédités au Mouton électrique, L'impasse temps et Car les temps changent. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Retrouvez tous les anciens numéros de l'émission sur son blog au http://thisisrockandpage.blogspot.com. Prenez bien soin de vous et passez de bonnes fêtes.